dessous de l'infox.
Au micro, Grégory Genevrier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les dessous de l'infox. Pour la deuxième année consécutive, les experts du Forum économique mondial ont classé la désinformation comme la première menace planétaire à court terme. Face à la difficulté d'endiguer le phénomène, les chercheurs alertent sur la nécessité d'armer les esprits contre les infox. Alors peut-on rendre nos sociétés résilientes face aux fausses informations? Comment construire des bases d'autodéfense intellectuelle? On en parle avec notre invité, Richard Monvoisin, enseignant-chercheur en didactique des sciences. Il vient de publier « Peut-on déjouer les fake news ?» aux éditions La Martinière Jeunesse. En Syrie, les images d'exécutions arbitraires commises sur la communauté alaouite sont partout sur les réseaux sociaux. Des violences réelles auxquelles s'ajoutent de nombreuses infox visant à alimenter les tensions communautaires. C'est la chronique d'Olivier Four, journaliste à la cellule InfoVérif de RFI. Et puis nous parlerons de l'Afrique du Sud, où la désinformation attise là aussi les tensions raciales. Cynthia Cabral de l'AFP Factuel épingle des publications qui prétendent à tort que 60 fermiers blancs sont tués chaque jour dans le pays. Mais avant ça, place à l'invité. Bonjour Richard Monvoisin.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous êtes enseignant-chercheur en didactique des sciences, spécialiste de l'étude des croyances et des théories controversées. Votre dernier ouvrage, un petit livre très intéressant, « Peut-on déjouer les fake news ?» aux éditions La Martinière Jeunesse. Vous avez également animé un podcast sur France Culture, toujours sur cette thématique de la résistance face aux manipulations. Quand on regarde les matières que vous enseignez à l'université de Grenoble au sein du labo TIMC, on retrouve un cours sur la zététique. C'est un terme un petit peu barbare qui revient régulièrement quand on parle de lutte contre la désinformation. Qu'est-ce que ça veut dire, la zététique ?
Il y a eu plusieurs sens à ce mot. Disons que le principal sens, c'est l'étude méthodique, scientifique des phénomènes réputés étranges, paranormaux, controversés, à la frontière du réel. Et par extension, on désigne par zététique la démarche qui vise à augmenter le niveau critique des étudiants et puis des apprenants, de tous les gens qui vont apprendre comment déjouer certains biais de raisonnement, certaines théories qui posent problème et qui n'ont pas le niveau de preuve qu'elles prétendent avoir.
C'est une vieille discipline, c'est pas quelque chose de récent.
Ah, le mot déjà est très très vieux, il remonte aux anciens Grecs. Et la démarche à proprement parler a eu une première vie universitaire dans les années 70, en particulier à Nice, très exactement en France.
Vous étiez notamment le premier doctorant sur cette discipline, c'est ça ?
C'est vrai. J'étais le premier doctorant de la discipline sous la direction de Henri Brock, qui a monté un laboratoire de zététique, le premier du nom, et d'ailleurs possiblement le dernier, puisque c'est un mot quand même qui est assez compliqué à manipuler. Maintenant, on préfère parler de pensée critique, de manière générale, pensée critique ou en anglais, critical thinking.
Est-ce que vous pourriez nous donner des cas concrets de croyances ou de théories farfelues que vous avez démystifiées du coup, au sein de votre laboratoire en utilisant cette discipline qu'est la zététique ?
Oui, on m'a fait tester pas mal de choses. J'ai investigué des lieux hantés, par exemple. J'ai eu l'occasion de travailler sur les tables tournantes et les processus appelés Ouija, qui sont censés permettre le spiritisme. Très récemment, j'ai fait une étude sur la communication animale intuitive, c'est-à-dire des gens qui disent être capables de rentrer en connexion à distance avec le cerveau d'animaux de compagnie et dire si ces animaux sont heureux, pas heureux, contents, pas contents. Et on se rend compte, en montant un protocole expérimental fiable, que malheureusement, il semble que ce soit une vue de l'esprit de ces gens-là que de penser être capable de faire ce genre de choses.
Quand on entend zététique, justement, souvent, certaines personnes font le rapprochement avec le fact-checking en disant que c'est le même combat, quasiment la même discipline. Pourtant, c'est deux pratiques qui restent quand même différentes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, ça s'entremêle, hein. Vous savez, la base de la zététique, c'est déjà de regarder les faits avant de construire des théories. Et donc, de fait, le fact-checking est un élément essentiel de la procédure. Mais quand on fait du fact-checking pur, généralement, on analyse pas le corpus théorique. On regarde pas toute la littérature sur un sujet donné. Vous savez, mon travail à moi, c'est vraiment un travail de scientifique, c'est-à-dire de faire une biographie complète sur un sujet. En général, quand on fait du fact-checking, on travaille sur un élément d'information et on regarde s'il tient ou s'il tient pas. Moi, je l'inclus bien souvent dans un contexte théorique plus large, et donc je suis obligé de compulser des vieux livres, des grimoires et toute la littérature qui a été publiée sur un sujet.
Et alors comment on apprend cette discipline à des étudiants ? Comment vous y prenez ?
J'ai une méthode assez particulière, j'essaie d'incarner la démarche sur des sujets qui sont d'abord affectivement peu engageant, quoi. Pas très important. Par exemple, je l'ai fait travailler sur l'existence, est-ce que l'existence du monstre du Loch Ness est avérée, par exemple. Oui, des théories comme ça qui vous empêchent pas de dormir à la nuit, quelle que soit la réponse. Et ensuite, quand on a mobilisé tous les outils dont on a besoin pour investiguer ça, l'idée, c'est de passer à des sujets qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus affectivement chauds, et on mise sur la consistance intellectuelle des étudiants. S'ils ont utilisé ces outils-là sur des sujets qui sont très simples, progressivement, même si on passe sur des sujets plus compliqués, ils seront capables d'utiliser ces outils-là, ces outils méthodiques de doute, même quand ils regardent la télévision ou qu'ils suivent un fil sur X ou sur Facebook ou sur un média social quelconque.
On en vient à votre ouvrage « Peut-on déjouer les fake news ?» donc, qui est paru récemment. Vous commencez dès la deuxième page par remettre en question l'utilisation du terme fake news qui est largement employé aujourd'hui. J'imagine d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle vous l'avez mis dans le titre de votre livre. Pourquoi est-ce que cette formule pose problème ?
Parce qu'elle est trop vaste, vous voyez, qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. C'est-à-dire que dans fake news, on retrouve tellement de choses différentes que c'est presque impossible d'attraper un objet bien particulier. Fake news, ça regroupe aussi bien un fake que vous auriez fabriqué sur Internet, qu'une désinformation dans le cadre de statistiques que vous avez données, dont vous ne donnez pas la complétude, vous enlevez des morceaux qui ne vous intéressent pas, vous gardez ceux qui vous intéressent. Il y a des éléments de propagande et des éléments langagiers. En fait, ça mélange tellement de choses que fake news, c'est une notion que les scientifiques et même les politiques d'ailleurs commencent à se méfier. C'est trop vaste, c'est trop large, ça désigne trop de choses en même temps. On a l'équivalent en français, hein, qui est infox.
Mais oui, c'est le terme que nous, on utilise à RFI.
Mais il est un peu moins sexy, je pense, pour le grand public. Et puis, on a eu un promoteur incroyable de cette notion de fake news qui s'appelle Donald Trump.
Ces fake news, ces infox, plutôt, on les retrouve partout sur les réseaux sociaux et dans notre quotidien. Comment expliquer leur succès, Richard Monvoisin ? Vous parlez notamment de la peur du vide.
L'essentiel du succès des fake news, c'est que bien souvent, de ces informations fausses, c'est qu'elles viennent nous complaire à notre cerveau. En fait, notre cerveau, on lui fait une grande confiance quand on a décidé qu'un savoir était un savoir ou qu'une connaissance était une connaissance. Tout ce qui va aller dans le sens de cette opinion, eh ben on aura tendance à le prendre pour vrai et à l'apprécier, quoi. Ça nous flatte, si vous voulez, ça nous caresse le cerveau dans le sens du poil, bien que le cerveau n'ait pas vraiment de poil. Et on n'aime pas trop se retrouver en dissonance cognitive quand les faits viennent à l'encontre de ce qu'on pense, et on a tendance à plutôt détester une source qui nous apporterait des informations contradictoires avec nos opinions. Le problème, c'est qu'on a tendance à oublier que nos sujets d'expertise, ils sont pas très nombreux. Même moi, dont c'est le boulot, j'ai 7, 8 sujets sur lesquels je suis vraiment archi pointu. Et en fait, le reste, ce n'est que propos de comptoir, si vous voulez. C'est que des opinions qui sont un vague mélange de ce que j'ai entendu, plus 3 journaux télévisés, plus 4 fils Internet que j'ai pu lire. Et objectivement, si j'appliquais une rigueur méthodique tout le temps, je devrais changer d'avis plusieurs fois par semaine sur plein de sujets, tellement le nombre de sujets sur lesquels je suis incompétent est grand.
Et c'est ce que vous dites aussi. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'on a tous du mal à changer d'avis.
Mais c'est hyper dur de changer d'avis. En fait, la question que je pose aux étudiants souvent, c'est, je leur dis, ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé d'avis sur un sujet ? Si ça fait plus de 2 jours, c'est inquiétant. Vu le nombre de sujets sur lesquels on n'est pas bon, on devrait changer d'avis tout le temps.
Oui, et malheureusement, c'est pour ça aussi que les gens restent parfois embrigadés dans certains narratifs, certaines désinformations, et c'est très difficile d'extraire les personnes de toutes ces croyances, et notamment à cause de ça.
Oui, et les réseaux sociaux aggravent le fait. Parce que les réseaux sociaux, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, sont des réseaux propriétaires. Qui dit propriétaire dit à but lucratif, et donc qui dit but lucratif dit qui encourage tout ce qui peut être piège à clic. Or, on remarque que les affirmations les plus rocambolesques, les plus étonnantes, les plus raides, les plus cinglantes sont celles qui génèrent le plus de suivi, et les gens relayent ça d'autant plus volontiers. Donc, en fait, les algorithmes à l'œuvre dans les réseaux sociaux aggravent le phénomène de confirmation que l'on a avec notre cerveau.
Et alors, il faudrait quoi ? Des algorithmes plus humains, moins portés sur la viralité des contenus ?
Là, la solution que je vois, c'est prendre des réseaux sociaux qui ne sont pas propriétaires. J'en connais au moins un qui s'appelle Mastodon, mais je pense que c'est ça le salut, en fait. C'est qu'il n'y ait pas d'algorithme qui pousse vers de la désinformation organisée, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, du coup, ces réseaux sociaux, selon vous, ils font, disons, leur fonds de commerce, c'est notamment nos biais cognitifs.
Et c'est exactement ça. Et c'est construit comme ça, et c'est dit comme ça. Hein. C'est pas caché. Les gens qui ont inventé le scrolling... Tous les outils qu'on voit dans nos réseaux sociaux modernes ont été inventés dans ce but-là. Il n'y a juste pas mystère. Personne n'en a fait mystère.
Parce que comment échapper à ces biais cognitifs, justement? Est-ce que c'est possible?
Non, je pense que d'imaginer qu'on puisse échapper à ces biais cognitifs-là, c'est un leurre qui peut nous plonger encore plus dans les formes de manipulation. Je pense qu'il faut juste être conscient qu'on est comme ça et se dire « une information me plaît, c'est bizarre. Est-ce que je peux essayer de penser contre moi-même? Est-ce que je peux prendre un certain temps avant de la relayer? Et est-ce que je vais augmenter encore le temps de réflexion que je vais avoir si ce sujet qui est abordé avec moi est un sujet sur lequel je suis absolument pas expert? Moi, par exemple, il y a des sujets sur lesquels je suis très pointu, dans les sciences médicales, par exemple, et il y a des sujets sur lesquels je suis vraiment très mauvais. L'archéologie antique, par exemple, je suis archi mauvais. Ce qui fait que si j'ai une information en archéologie antique, eh ben, déjà, premier réflexe, je vais pas relayer l'information qu'on me donne, puisque je ne m'estime pas compétent. Et si je voulais la relayer, je me donnerais un temps faramineux pour essayer de vérifier ce qui est à l'œuvre. Évidemment, c'est fatigant, c'est long, et c'est pas vraiment adapté quand on est en train de scroller avec son téléphone ou sur son ordinateur. Les gens ont pris l'habitude de traiter vite les informations et retweeter, rebalancer, repoeter, sans trop prendre le temps. Mais savoir, ça fatigue. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Ignacio Ramonet qui disait ça. Il disait « savoir fatigue ». Et oui, c'est fatigant, malheureusement.
Un des exemples que vous donnez quand vous parlez des biais, c'est notamment l'effet Barnum à propos de l'astrologie.
Ah oui, oui. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif intéressant. Quand on nous fait un discours assez vague sur nous-mêmes, prétendant nous décrire un petit peu dans notre ensemble, un discours, je prends un exemple, par exemple, si je vous dis « vous, Grégory, vous avez un caractère assez fort, mais de temps en temps, vous doutez, vous aimez les relations sincères avec les gens, parfois vous passez par des pics d'activité, vous êtes complètement déchaîné, et puis parfois vous sombrez un petit peu dans une petite déprime qui dure pas très longtemps, puis vous remontez la pente. » Bon, ben ça, je vous fais une affirmation comme ça, vous validez certainement comme vraie cette affirmation, mais en fait, elle est valable pour moi aussi, elle est valable pour quasiment tous nos contemporains, quoi. C'est suffisamment flou pour que tout le monde se reconnaisse dedans. C'est un petit peu positif, et donc ça marche très bien. C'est ce qui fait le succès de l'essentiel des arts divinatoires.
Mais ça traduit aussi quand même l'adhésion qu'on peut avoir à des narratifs, à des discours qui vont dans le sens de ce qu'on pensait déjà ou qui peuvent nous correspondre.
Exactement. Et si en plus vous rajoutez dans ces discours-là des mots qui sont suffisamment flous pour que tout le monde puisse voir le sens qu'il souhaite, que vous parliez de crise, que vous parliez de délinquance, voyez, si vous avez des mots comme ça qui sont taillés à la hache et qui ne sont pas précis, ben, on peut faire rentrer à peu près tout dedans et leur faire dire n'importe quoi.
Pour se prémunir de toutes ces infox, vous proposez de construire, je vous cite, des bases d'autodéfense intellectuelle. Comment on fait? Comment est-ce qu'on arme les esprits face à la désinformation?
J'aimerais vous donner une solution simple, mais je suis pas sûr d'en avoir. En plus, moi, je travaille essentiellement avec des étudiants qui sont déjà d'un assez bon niveau et qui ont survécu à la course à l'éducation. Je pense qu'on devrait commencer tôt. Je remarque que chez des élèves qui ont même pas 8, 9 ans, on peut déjà arriver à construire des doutes méthodiques, des doutes raisonnables, comme on dit, les amener à douter des informations qu'on leur donne. Je pense qu'il faudrait rendre obligatoire à l'école, très tôt, les démarches de doute et de méthodologie scientifique de base. Le statut qui va sauver l'humanité, je pense, c'est le statut de la preuve. C'est comment on administre une preuve? Comment on prouve que quelque chose qu'on pense est mieux que quelque chose d'autre? Parce que si vous faites comme Donald Trump ou Bolsonaro ou d'autres, et que vous sabotez le statut de la preuve, tout se met à se valoir. Et si tout se vaut, bah, c'en est fini du savoir, c'en est fini de la connaissance. Tout se met à se valoir, l'inverse, son contraire, une thèse alternative. C'est d'ailleurs pour ça qu'il savonne cette planche, si vous voulez, Trump, pour prendre l'exemple de Trump, mais c'est pas le seul. Une fois que vous avez saboté le statut de la démonstration et de la preuve, bah, vous pouvez raconter n'importe quoi et personne ne peut vous prendre en défaut. Il n'y a plus rien pour appréhender le réel.
Ce que vous dites aujourd'hui, Richard Monvoisin, en tant, je le rappelle, que chercheur en didactique des sciences, c'est que les fausses informations reposent la plupart du temps sur des démonstrations, je reprends vos mots, foireuses. C'est ça qui permet de s'y attaquer?
Exactement. Plutôt que d'objecter de manière affective contre une théorie ou contre des faits qui ne nous plaisent pas, prenons-les à bras le corps et regardons-les, décortiquons-les. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ce qui fait que là, je vois pas d'autre issue que de créer un énorme réseau. Je trouve que des tendances comme créer Wikipédia, par exemple, je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait un savoir collectif que tout le monde vient brosser plus ou moins, remodeler progressivement au gré des nouvelles données. Et parce que de toute façon, seul, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est pour ça que je mets ce doute dans le titre de mon bouquin, c'est que je ne pense pas que seul, on puisse se prémunir des fake news. Si tant est que fake news, ça a vraiment un sens. Mais la désinformation, c'est une affaire collective, je pense.
Est-ce que nos sociétés manquent d'esprit critique aujourd'hui ?
Si on dit ça, on présume qu'auparavant, c'était pas le cas. Moi, je pense que ça a toujours été comme ça, si vous voulez. Il y a toujours eu des malins pour essayer de profiter de nos biais cérébraux et asseoir du pouvoir à partir de là. Je pense que les choses n'ont pas vraiment changé. Par contre, le flux d'informations, lui, il a carrément changé. Donc les tendances s'aggravent. Je pense qu'on ne pouvait pas imaginer, il y a 100 ans, qu'on puisse arriver à une situation comme une quasi-guerre civile, il y a 2 ans, aux États-Unis. Ça, c'est vraiment nouveau. Mais est-ce qu'on est moins ou plus critique qu'avant ? Je pense que ça bouge pas vraiment. Par contre, l'enjeu, il est réel. Là, c'est-à-dire que si on n'outille pas mieux la génération qui arrive, surtout avec les dangers liés aux grandes catastrophes type réchauffement climatique d'origine humaine, ça va être difficile de s'en sortir.
Je reprends vos mots, on parle de base de défense, d'armer les esprits, c'est quand même un champ lexical guerrier. Est-ce qu'on est en guerre, justement, contre la désinformation ?
C'est une bonne question. Alors, la métaphore guerrière, c'est jamais très heureux. Je préfère utiliser d'ailleurs le terme d'autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans votre cerveau avec des affirmations. Comment vous pouvez faire une sorte d'aïkido mental, si vous voulez. L'idée, c'est pas de devenir offensif avec le doute. L'idée, c'est pas d'utiliser les mêmes outils que les gens en face. Mais l'idée, au moins, c'est de désarmer. Désamorcer. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on assiste à un débat au moment des présidentielles, par exemple, et qu'il y ait des juges arbitres au moment des débats présidentiels qui arrêtent les différents protagonistes quand ils font des erreurs de raisonnement factuel, quand ils utilisent des termes pas clairs, qu'on arrête le présentateur d'un journal télévisé quand, pareil, il utilise des formules qui nous font presque un prêt-à-penser d'une situation. Je rêverais qu'on hisse le niveau critique de la population pour que ce genre de mascarade, parce que vraiment, parfois on assiste à des mascarades médiatiques, n'ait plus lieu d'être. Quoi.
Certains présentent, on en revient à la zététique, certains présentent la zététique comme l'art du doute. À quel point est-ce qu'il faut douter de tout aujourd'hui quand on est confronté à une information ?
À quel point il faut douter de tout ? Je réfléchis, excusez-moi. Hein.
Est-ce que vraiment c'est le bon réflexe à adopter pour se défendre face à la propagation de toutes ces infox ?
Douter de tout, c'est impossible. Il va falloir que vous mangiez du sucre par kilo pour nourrir le cerveau qui se mettra à douter de tout, c'est pas possible. Et c'est invivable. Par contre, je pense qu'il faut s'appliquer à douter des choses qui vont nous concerner, surtout s'il y a urgence, en particulier s'il y a une urgence de santé ou s'il y a une urgence écologique ou s'il y a des choses qui nous concernent directement. Et le reste, j'ai envie de dire, il y a des choses sur lesquelles c'est tellement éloigné, tellement lointain, que privilégions les situations locales et espérons que tous les gens dans leur logiciel local fassent la même chose. Ça n'empêche pas des analyses un peu globales, je pense à des contextes de guerre, par exemple, ou des contextes de propagande guerrière. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, par exemple, moi, je fais le deuil d'analyser correctement tous les discours qui viennent de la guerre en Ukraine, par exemple. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps matériel de le faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je délègue vers des gens dont c'est le métier, des politistes dont c'est le métier. Et, ça, et je ne vais pas aller chercher des chroniqueurs d'une pauvre émission télé. Hein. Je vais chercher des gens dont c'est le travail. Quoi.
Oui, donc un travail d'identification des sources fiables.
Exactement. C'est-à-dire, il y a des gens dont c'est la spécialité de travailler sur Ukraine, Russie, et donc je me tourne vers eux. Alors moi, j'ai la chance de savoir vers qui me tourner. Je suis à l'université et ils sont à 100 mètres de moi, ces gens-là. Et je rêve que ce soit accessible à tout le monde, qu'au moment d'un doute sur un sujet global et sur lequel on n'a pas les compétences, qu'on puisse se tourner vers les bonnes personnes. Donc il va falloir un réseau fiable. Et ça, malheureusement, c'est pas parti pour l'instant.
Certains chercheurs affirment qu'on est rentré aujourd'hui dans l'ère de la post-vérité où tout se vaut, où on ne distingue plus les faits et les opinions. Quel est votre regard, vous, sur la question ?
Dire qu'on est rentré dans l'ère post-vérité, ça signifie qu'on n'y était pas avant. Et ça, je suis pas très sûr de souscrire à cette thèse, parce que en fait, le problème de la désinformation, ça a toujours été... dès qu'il y a eu des ruses de guerre dans l'Antiquité, on était dans la désinformation. Dès que des tyrans ou des dictateurs ont voulu écrire l'histoire à leur sauce, ils demandaient à des moines scribes de le faire. On n'a pas le privilège de la désinformation. Non, c'est le flux qui a changé. C'est le flux et la rapidité avec lesquelles les informations arrivent. Je pense qu'il y a 100 ans, les gens n'auraient pas osé aussi facilement que nous maintenant sortir des choses sur l'ARN messager, les protéines spike et la guerre en Ukraine. Mais maintenant, on est tellement habitué à un flux monumental d'informations qu'on se permet, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle parfois l'effet de cuistrerie, c'est-à-dire qu'on pense qu'en ayant mis trois, bout à bout trois journaux télé et deux informations qu'on a lues dans le journal, eh ben, on peut se faire une opinion fiable, mais les sujets sont extrêmement complexes la plupart du temps.
Et malgré
Il faut revenir à une sorte d'humilité, une sorte d'humilité qu'on a perdue.
Et malgré ce flux, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il est possible, malgré tout ça, de fonder des sociétés qui soient résilientes?
Mais j'ai envie de dire, on n'a pas bien le choix. C'est, si on fait pas ça, je sais pas si tout le monde voit bien vers où ça nous mène, mais imaginez par exemple qu'on nie le réchauffement climatique d'origine anthropique. Bon, il y a quand même un certain nombre de terres qui, dans 100 ans, risquent d'être sous l'eau, ce qui entraînera des flux migratoires monstrueux, et ce qui va entraîner des redistributions de richesses tout à fait improbables. Je pense que, en fait, il y a pas bien le choix. Donc, je préfère, vous voyez, ça, c'est peut-être le domaine où je vais mettre ma croyance en jeu. Je préfère croire qu'on va y arriver plutôt que pas.
Et
C'est une croyance.
Et l'objectif de votre livre, c'est qu'on puisse y parvenir. Merci Richard, mon voisin. Je rappelle que
je
vous
vous en
êtes enseignant-chercheur en didactique des sciences, spécialiste de l'étude des croyances et des théories controversées. Allez, cap maintenant sur la Syrie où depuis le 6 mars dernier, les images terribles montrant des exécutions arbitraires ciblant principalement la communauté alaouite se multiplient sur les réseaux sociaux. L'OSDH estime que plus de 1000 civils ont été tués en quelques jours, notamment dans la province de Latakié. Certaines vidéos sont d'une rare violence, mais dans ce flot d'images, on retrouve aussi beaucoup d'infox, un mélange de documents authentiques et sortis de leur contexte qui accentue la confusion et alimente les tensions communautaires et confessionnelles. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Depuis la semaine dernière, vous avez passé en revue des dizaines de vidéos et on peut dire que l'on a assisté à une véritable guerre de l'information autour de ces massacres.
Oui, un déchaînement de violence qui laisse des traces sur les réseaux, beaucoup de commentaires, des condamnations à propos de la responsabilité des nouvelles autorités de Damas, mais aussi une forme de satisfaction affichée par certains qui tentent de légitimer ces actes de vengeance après 14 ans de guerre civile et 54 ans de domination alaouite sous le régime Assad. Des images choquantes et des prises de position qui sont finalement assez peu modérées sur le réseau X.
Vous avez pris le temps, Olivier, de regarder ces images, c'est le cas de le dire, et vous avez constaté que la désinformation prend plusieurs formes.
Ces infox partent souvent de groupes WhatsApp, de chaînes Telegram, avant de se répandre sur le réseau d'Elon Musk. Elles sont parfois relayées et amplifiées par des comptes pro-israéliens, pro-russes ou anti-occidentaux afin de discréditer les nouveaux maîtres de Damas. Il y a par exemple des documents truqués qui circulent, comme ce faux communiqué de HTS, la formation rebelle qui a pris le pouvoir fin 2024. À en croire ce qui est écrit sur ce papier, il est interdit de filmer les exactions, mais c'est un faux, il s'agit d'un montage réalisé à partir d'un communiqué du ministère syrien de la Défense datant du mois dernier. Il a été vu plus de 150 000 fois rien que sur X. Une fausse information a circulé par ailleurs annonçant l'assassinat d'un haut représentant chrétien de l'église de Tartous, démenti formel des autorités religieuses de la région. Et puis il y a aussi beaucoup d'images sorties de leur contexte afin de tromper le public et attiser les tensions. On l'a dit, par exemple, l'image d'un supplicié attaché à une croix et abattu d'une balle en pleine tête. Une recherche par image inversée permet d'établir que cette exécution remonte en réalité à 2015 et qu'elle ne se déroulait pas sur la côte syrienne mais dans la Routa près de Damas. Des infox comme celle-ci, il y en a des dizaines sur les réseaux depuis la semaine dernière. Alors ce constat ne doit pas limiter la portée des violences réelles survenues ces derniers jours. Les autorités de Damas ont d'ailleurs annoncé la formation d'une commission d'enquête indépendante sur les exactions qui ont visé les civils.
On l'entend, la désinformation bat son plein en Syrie. Les événements de ces derniers jours n'y ont malheureusement pas échappé.
La désinformation n'est pas nouvelle en Syrie, mais elle n'a pas disparu avec la fin du régime Assad. Selon la plateforme de fact-checking Misbahr, qui fournit un gros travail de vérification et d'analyse sur le Moyen-Orient, un réseau de comptes suspects très actifs depuis l'effondrement du régime syrien propage, je cite, « des discours de haine et incite à la violence sectaire à un moment critique pour la société syrienne ». Prudence donc, une fois encore, à propos de ce que l'on peut voir, lire ou entendre concernant les événements en cours en Syrie.
Merci Olivier Four, votre chronique est à réécouter sur notre site internet ou sur l'application RFI Pure Radio. En Afrique du Sud, plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, la violence contre les agriculteurs blancs reste un sujet particulièrement clivant. Fin janvier, une nouvelle loi sur la redistribution des terres a été promulguée visant à réduire les inégalités foncières. Le président américain Donald Trump a accusé le gouvernement sud-africain de confisquer illégalement des terres et a suspendu l'aide au pays. Une polémique qui a ravivé sur les réseaux sociaux l'idée d'un génocide blanc en Afrique du Sud. Bonjour Cynthia Cabral.
Bonjour.
Journaliste au service de fact-checking de l'AFP. Vous épinglez aujourd'hui des publications qui prétendent à tort que 60 fermiers blancs sont tués chaque jour en Afrique du Sud par des citoyens noirs.
Oui Grégory, un chiffre déclaré comme officiel par ces postes, relayé des milliers de fois, notamment sur X. D'après les auteurs de ces affirmations, il y aurait, je cite, un génocide blanc en Afrique du Sud où les victimes blanches seraient non seulement tuées, mais aussi torturées, violées, écorchées vives, brûlées et découpées en morceaux. Pour étayer leurs propos, les auteurs partagent des images anciennes de personnes blanches battues ou blessées et déclarent que le dirigeant américain Donald Trump serait le premier président au monde à soulever ce problème. Si les meurtres de fermiers blancs dans ce pays est un sujet bien réel, le chiffre d'environ 60 meurtres par jour est bien loin de la réalité et sert à exacerber les peurs et la tension raciale.
Mais alors que disent les chiffres officiels sur le nombre de fermiers morts dans le pays ?
Plusieurs sources fiables recensent le nombre annuel d'attaques et de meurtres dans les exploitations agricoles sud-africaines. Parmi elles, on trouve la Tausa, un syndicat agricole sud-africain qui a dénombré 50 meurtres dans des fermes pour toute l'année 2023, et non chaque jour. Pour 2024, elle a dénombré 32 personnes tuées. Selon cette même source, 63 personnes ont été tuées en moyenne chaque année dans des exploitations agricoles sur les 10 dernières années. Ce chiffre inclut des fermiers, membres de famille, employés ou encore des visiteurs, de toutes couleurs de peau confondues. Les autres sources fiables rapportent des ordres de grandeur similaires. Les publications, qui évoquent 60 meurtres par jour, transforment donc une statistique annuelle en une donnée quotidienne.
Et ces photos de personnes blessées qui sont brandies comme des preuves sur les réseaux, sait-on d'où elles proviennent, Cynthia ?
Grâce à plusieurs recherches d'images inversées, on est retombé sur des sites internet apparus au début des années 2000 qui recensent des témoignages de blancs sud-africains évoquant des agressions par des noirs. Par exemple, un article d'un blog publié en 2009 affirmait qu'il y avait eu 3048 fermiers blancs tués depuis la fin de l'apartheid en 1994. Mais selon la Tausa, entre 1990 et 2024, 2182 personnes auraient perdu la vie dans des exploitations agricoles. On voit bien que les chiffres réels sont plus bas que ceux évoqués, alors même qu'ils s'étalent sur près de 20 ans de plus.
Oui, donc les chiffres avancés sur les réseaux sociaux sont totalement faux, loin de la réalité. Malgré ça, la violence contre les agriculteurs blancs reste quand même un problème majeur en Afrique du Sud.
Tout à fait, Grégory. Et il ne faut pas minimiser la perte de ces vies humaines, mais il faut les replacer dans un contexte plus large de forte criminalité dans le pays. L'Afrique du Sud affiche l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Plus de 19 000 personnes ont été tuées entre janvier et septembre 2024, selon des données agrégées par la police sud-africaine, soit 70,6 meurtres par jour. Des experts sud-africains nous ont révélé que même si le véritable risque se situe en milieu urbain, le pays vit des attaques parfois plus violentes dans les zones rurales. L'isolement des fermes rendrait les victimes plus vulnérables à des agressions brutales et les secours pourraient mettre plus de temps à arriver.
Merci Cynthia Cabral, votre travail est à retrouver plus en détail sur le site de l'AFP Factuel. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en ligne en tapant RFI InfoVérif dans un moteur de recherche. Merci à notre invité, à nos chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous laisse avec Philippe Le Caplain. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Grégory, c'était donc Les Dessous de l'Infox sur Radio France Internationale. Et dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir, l'actualité du continent, avec vous à la présentation, Zéphirin Quadio. Alors, deux des principaux partis politiques de Guinée, suspendus pour 3 mois, c'est une décision de la junte au pouvoir depuis le coup d'État du septembre 2021.
Oui, ces partis ont manqué à leurs obligations de fournir un compte bancaire ou de tenir un congrès au cours des 3 derniers mois, a justifié le ministre de l'administration territoriale, le général Ibrahim Khalif Condé, à l'occasion de la présentation d'un rapport d'évaluation concernant les formations politiques. du pays. Nous évoquerons aussi le discours du Premier ministre burkinabé sur l'état de la nation. Le chef du gouvernement s'est félicité des résultats du plan d'action pour la stabilisation et le développement, avec une priorité, la lutte contre le terrorisme.
Et vous ferez également un point sur la situation en Éthiopie.
Oui, où la tension est montée d'un cran dans le Tigré. Deux factions du TPLF, le Front de Libération du Peuple Tigréen, se disputent la gouvernance de cette région du nord du pays. Nous reparlerons aussi de la première grève de moelle osseuse réussie au Sénégal. Et puis en football, nous reviendrons sur la première conférence de presse du nouveau sélectionneur de l'équipe libyenne, le Sénégalais Aliou Cissé.
Voilà donc tout cela dans Afrique Soir. Ce sera avec vous et la rédaction Afrique de Radio France Internationale, Zéphirin Kouadio. Avant cela, ce sera le grand journal de 19h avec notre ami Adrien Delgrange. Vous écoutez Radio France Internationale. Dans un peu moins d'une minute, il sera 19h ici à